Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport. C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là, bien heureuse de vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Manger au resto, c'est souvent une occasion de se faire plaisir quand on est en famille. Puis ça aussi, il faut le dire, une bonne façon de donner une pause aux parents qui sont souvent essoufflés dans un rythme complètement effréné entre la préparation des repas et des lunchs. Toutefois, pour les parents qui ont envie de faire jumeler plaisir et santé, l'offre des restaurants familiaux peut être assez limitée. Et en deuxième partie d'émission, Stéphanie Cotel, qui est nutritionniste du côté d'Extenso, sera là pour peut-être aiguiller nos choix en matière de resto avec les enfants. Mais en premier lieu, je vais vous parler de mentorat qui a, vous devez vous en douter, un impact très positif, en tout cas du moins qui peut avoir un impact très positif sur la vie de jeunes en manque de modèles. Mais malheureusement, ce que l'on constate, c'est que les hommes sont souvent moins prêts à s'engager pour ce type d'accompagnement-là. Au programme des grands amis de la Fondation du Dr Gilles Julien, on compte 80 % de femmes pour 20 % d'hommes parmi les bénévoles des grands amis. Comment on peut encourager les hommes à devenir des mentors? J'en parle avec Marie-Ève Desjardins, responsable des bénévoles pour le programme des grands amis de la Fondation du Dr Julien et Jonathan Morier, un grand ami. Bonjour Jonathan Morier.
Bonjour Madame Paquette.
Marie-Ève Desjardins, bonjour, merci d'être là.
Bonjour, merci à vous.
Jonathan, vous êtes le grand ami d'un petit garçon qui s'appelle Jean-François, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et ça fait combien de temps que vous vous impliquez avec lui?
Ça fait bientôt 8 ans. Au mois d'août, ça va faire 8 ans qu'on est jumelés.
Donc, une relation, bon, je dirais de longue durée. Marie-Ève, ça fait combien de temps que les grands amis existent?
Ça fait 12 ans.
Et ça a été mis sur place pour répondre à un besoin, j'imagine, qui existait dans le quartier où se trouve la clinique du Dr Julien.
Oui, exactement. On s'est inspiré, en fait, de grands frères et grandes sœurs. Fait que le programme se ressemble, sauf qu'il est destiné uniquement pour les enfants qui sont suivis dans nos centres de pédiatrie sociale. Ça a commencé dans Hochelaga Maisonneuve. C'est Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une cinéaste là, bien connue au Québec, qui était bénévole à la Fondation du Dr Julien et qui a eu l'idée de partir ce programme-là.
Pour répondre à un besoin, j'imagine, famille peut-être avec différents problèmes et il y avait un manque à ce niveau-là.
Oui, ben beaucoup des enfants qui sont suivis dans nos centres vont être laissés à eux-mêmes, pas nécessairement par mauvaise volonté des parents, mais plutôt parce que ce sont des parents qui sont en mode survie constamment et que ben de prendre un après-midi pour aller au cinéma avec son plus vieux quand on en a 4 autres à la maison, c'est pas évident. Par contre, les enfants sont des enfants, ils ont ce besoin-là d'être accompagnés.
Mm-hmm. On parle des besoins des enfants. Jonathan, en vous impliquant auprès de Jean-François comme ça pendant 8 ans, j'imagine que ça a répondu à des besoins à vous aussi.
Tout à fait, tout à fait. Des besoins de mon côté, des besoins du côté de Jean-François. Comme Marie-Ève le dit si bien, c'est ça, c'est les parents qui sont en mode survie parfois. Puis dès le départ, c'est ça un peu que je sentais que je pouvais apporter à Jean-François. Puis du coup, ça me nourrissait aussi. Quelque chose de peut-être un apport culturel, lui faire voir un autre monde, lui faire goûter à des activités qui pouvaient peut-être l'inspirer, auxquelles il n'avait peut-être pas accès dans son milieu familial premier. Au départ, le lien avec Dr Julien, c'était ça un peu. Moi, j'avais des intérêts en art, en musique, puis Jean-François, c'était ça aussi un peu. C'était le point de départ pour nous jumeler ensemble, le fait qu'on puisse, avoir des allégeances par rapport à ces intérêts-là ensemble.
Mm-hmm. Ouais. Marie-Ève, est-ce que c'est quelque chose que vous observez pour créer les jumelages, c'est-à-dire les intérêts de l'enfant et de l'adulte?
Oui, tout à fait. J'essaie d'aller un petit peu plus loin que ça quand même. Dans le cas de Jonathan puis Jean-François, ça a bien fonctionné, ils ont développé une belle relation. Mais au-delà des intérêts, c'est aussi de répondre aux besoins. Donc, identifier c'est quoi le besoin du grand ami et identifier le besoin de l'enfant aussi, puis de jumeler ces besoins-là.
Parce qu'il faut que ça colle, il faut que le jumelage soit durable. Ces enfants-là, peut-être pas dans tous les cas, mais parfois ont déjà vécu des situations d'abandon. On ne veut pas, en plus, accentuer ça.
Non, d'autant plus que souvent, les enfants qui sont en attente pour un ou une grande amie, ce sont des enfants qui ont vécu justement beaucoup d'abandon, donc il y a un manque à ce niveau-là, et on veut amener un adulte significatif pour donner, combler un peu ce manque-là, donner un petit coup de main de plus. Donc, effectivement, quand un jumelage ne fonctionne pas, on est passé un petit peu à côté de notre objectif premier.
Ouais. Et pour que ça fonctionne, il faut que la relation se crée, le lien de confiance également. Jonathan, ça s'est passé comment pour vous au départ?
Bien, au départ, c'était la rencontre habituelle avec Dr. Julien était sur place. Il y avait une intervenante, il y avait la mère de Jean-François, puis Jean-François. On s'est rencontrés la première fois, puis du coup, après, on est parti tout de suite faire une activité, je sais pas quoi. On est allé faire un petit tour au restaurant, je crois. Puis le lien de confiance, bien, graduellement, il s'est fait. Puis moi, c'est sûr que j'ai appris beaucoup à travers ce lien-là, parce qu'au départ, veut pas, Jean-François en avait envie. Il avait fait la demande à sa mère, mais il y avait de sa part aussi... peut-être certaines réticences à faire confiance que je peux bien comprendre aussi. Peut-être justement à cause de cette thématique-là d'abandon, c'est entré dans le concret, mais c'est bien ce qu'il avait vécu au préalable. Puis moi, c'était clair pour moi. Je ne veux pas, aujourd'hui à l'émission, mettre ça comme si c'était un engagement de tout instant pour être grand ami, parce que j'ai envie d'encourager... des hommes à être grands amis.
Pour leur faire peur, oui.
Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, quand même, c'est vrai que c'est primordial de, à tout le moins, s'engager au minimum, voir ça à long terme. Au départ, l'engagement avec les grands amis, je ne sais plus si c'est le cas, mais il y a 8 ans, c'était, on s'engage au moins pour 1 an à raison de, on se voit 2 fois par semaine.
Puis, Marie-Ève semble d'accord avec ces chiffres-là,
oui,
donc ça a demeuré comme ça.
À peu près, oui.
Bien, bon, c'est le minimum 1 an. Les activités, c'est aux 2 semaines, par contre.
C'est ça, aux 2 semaines, c'est ça. Puis c'est ça que j'avais envie de faire. Mon besoin, c'était ça. Si on parle de besoin, j'avais envie d'offrir de ce temps-là, d'avoir une présence de mon côté, puis conscient aussi du besoin de l'autre côté. Mais je voulais justement pas aller à l'encontre de ce lien de confiance-là qui allait se nouer tranquillement entre nous. Puis ça s'est fait graduellement. Quelques activités, on discutait, on se racontait des histoires, sans vouloir tout d'un coup que ça se passe rapidement. Ça se fait graduellement, comme un lien d'amitié ou quoi. C'est ça. C'est ce qui s'est fait au fil du temps.
C'est un beau parallèle que vous faites, Jonathan, et juste avant qu'on ouvre les micros tout à l'heure, Marie-Ève me faisait la même comparaison. C'est-à-dire qu'il est peut-être plus aisé de faire de la place pour cette nouvelle relation-là quand on la considère comme une relation d'amitié. C'est-à-dire, quand on a envie de voir un ami, on le texte, on lui écrit un petit courriel, et puis justement, la rencontre se crée.
Tout à fait. Tout à fait.
Jonathan, j'imagine qu'il y a des difficultés parfois qui se sont immiscées dans cette relation-là. Est-ce que c'est une question en fait que je pose un peu aux deux et vous verrez lequel répond en premier, à savoir est-ce que la fondation, le programme des grands amis est là, que ce soit vous, Marie-Ève, ou votre équipe, pour encadrer les grands amis quand ils vous appellent, le téléphone sonne et oh là là, j'ai un pépin, il arrive telle problématique dans la vie de l'enfant que j'accompagne, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas outillée pour ça.
Jonathan, tu y vas-tu?
Ben moi, je peux parler de ma toute petite expérience, bien humblement. Moi, j'ai été bien supporté de mon côté quand c'est arrivé du côté des grands amis. On a eu la chance, Jean-François et moi, qu'il n'y ait pas eu tant de pépins, mais il y en a eu quand même. Je pense que c'est tout à fait normal, surtout sur une durée de 8 ans. Mais il y a un moment donné, dans l'histoire de Jean-François, sans trop entrer dans les détails, mais... sur 8 ans, il y a un moment où il a dû passer, puis ça, je crois qu'il est à l'aise que j'en parle tout à fait, mais il a dû passer pendant un an en centre jeunesse. Ben le temps qu'il était là, moi je pouvais un peu moins le voir.
Bien
au
sûr.
Départ, c'était un peu plus difficile. Cette transition-là, pour lui, était exigeante aussi. Puis j'étais là avec lui quand même. Puis ça, j'ai eu besoin de parler avec les grands amis, puis ils m'ont épaulé à ce moment-là. Puis aussi au retour de Jean-François à la maison, où là, tout d'un coup, je sentais de mon côté, dans mes angoisses de grand ami, je disais, bon, est-ce qu'il faut que là, tout d'un coup, je remplace toutes les activités qu'il y avait là-bas, pour pas qu'il retourne là-bas? J'avais comme, on dirait, tout d'un coup, je portais sur mes épaules un mandat trop gros, où je me disais, il faut absolument que je lui permette de faire ça, les activités qu'ils faisaient là-bas pour pas qu'ils se retrouvent à être dans une situation où ils retournent encore là-bas. Puis là, justement, j'en ai parlé encore aux grands amis là-bas, puis j'ai un support direct de Marie-Ève qui a été très bien. Justement, on a discuté, puis ce qui est bien, c'est que le lien avec la maman de Jean-François est bon aussi avec moi, fait qu'on a discuté ensemble de ça.
Et ça, c'est intéressant, rôle, le lien avec les parents, le lien avec la mère ou le père, s'il est présent, vous le faites comment, Marie-Ève Desjardins? Parce que, d'après ce que je peux comprendre, c'est les parents, parfois, qui expriment ce besoin-là aussi.
Oui, nous, en fait, la façon qu'on fonctionne, on travaille toujours en équipe. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Quand un enfant va être référé, va être placé en attente pour avoir un grand ami, il faut que l'enfant soit d'accord, que son parent soit d'accord. Puis il faut que nous aussi, on trouve que cliniquement, ça fait du sens pour cet enfant-là. Donc, à partir de ce moment-là, puis on fait la rencontre, les activités commencent et effectivement, il peut y avoir des pépins, que ça soit, bon, quand Jonathan a parlé, effectivement, que Jean-François a été placé en centre jeunesse, ou que ce soit des difficultés au niveau pour établir le lien de confiance avec le jeune, bien, on est là en équipe. Fait que moi, le grand ami, de un, il doit me faire un compte-rendu à tous les mois pendant la première année du jumelage. On veut s'assurer que ça évolue bien et... s'il y a des pépins, je suis là pour coacher. Il y a l'équipe de cliniciens qui est là en arrière aussi. Mais des fois, juste pour jaser, juste dire, OK, là, moi, je vois des choses dans le quotidien de cet enfant-là qui me confrontent dans mes valeurs, que je trouve difficiles. Parfois, on se sent impuissant. Je disais, j'ai besoin d'en jaser. Mes amis, je leur en parle, mais ils ne comprennent pas tout à fait. Fait que moi, je suis là pour ça. Ça fait partie de mon rôle.
Vous, Jonathan, vos amis, quand vous parlez de votre relation de mentor avec Jean-François, ils en disent quoi?
Ah ben, d'ordinaire, les gens sont... Ben, ils en disent des bonnes choses. Je crois que quelqu'un qui fait ça, en tout cas, de ce que je vois dans les yeux des autres, c'est waouh, c'est impressionnant. Ça semble... Des fois, les gens, ils semblent trouver que c'est beaucoup de temps. Puis, au final, souvent, je leur réponds, ben, écoutez... C'est un engagement, mais c'est pas non plus... c'est ça de c'est, en fait, c'est une présence de tout instant, dans le sens que s'il y avait un gros pépin, Jean-François, il peut compter sur moi, puis, puis m'appeler. C'est pas toujours peut-être le cas avec tous les liens entre grands amis, mais pour moi, au fil du temps,
ça se passe comme ça.
Un rapport un peu fraternel, c'est un peu comme si je le considérais quasiment comme un frère, mais là, ça répond peut-être encore de là à mon histoire. Mes besoins. C'est peut-être pas toujours le cas. Mais par rapport à votre question, le regard des gens, bien souvent, c'est super positif. Les gens, ils sont touchés par ça. J'essaie d'encourager, du coup, quand les gens ils trouvent ça intéressant, les gens d'en faire partie.
Je pose cette question-là pour ça, Jonathan, parce que les chiffres sont révélateurs. 80% de femmes s'impliquent auprès des grands amis pour devenir bénévole auprès des enfants. 20 % d'hommes, vous avez sûrement des amis garçons. Comment ça se fait qu'ils ne frappent pas à la porte de la Fondation du Dr Julien? Marie-Ève, pourquoi c'est difficile de recruter des hommes?
C'est vraiment difficile de nommer la raison. En fait, si je la connaissais, cette raison-là, j'aurais probablement trouvé une solution là, au problème. Le domaine social a toujours été principalement composé de femmes. C'est la même proportion, en fait, chez nos bénévoles que chez les employés, par exemple, à la Fondation du Dr Julien. Je sais pas, c'est un peu pour ça qu'on est là pour en parler aussi, pour essayer de faire un peu un appel à l'action, un appel à tous, de dire, ben si ça vous tente, tu sais, il y a des façons de s'impliquer. Puis c'est important parce que... comme par exemple dans les enfants qui sont en attente, ben ça va être 50-50. Fait que j'ai 50 % de filles, 50 % de garçons. Et donc, avec les statistiques que vous avez nommées, 80 % femmes, 20 % hommes, ben tout de suite, on n'a pas besoin d'être très bon en maths là, pour comprendre qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés.
Et dans des contextes où, malheureusement, le parent absent est le père.
Oui, très souvent. Souvent, en fait, que ce soit Hochelaga-Maisonneuve, c'est quand même un taux de monoparentalité là, de femmes, de mamans seules avec leurs enfants de 41 %. C'est quand même assez... c'est assez impressionnant comme chiffre. Et il y a des papas qui sont aussi présents dans le quartier, mais qui sont pas disponibles pour l'enfant. Ils sont présents, mais c'est pas le modèle positif qu'on voudrait. Donc, ça se peut qu'on veuille un grand ami pour un jeune dont le papa est quand même là, dans le décor. sans être nécessairement là, 100% disponible pour son enfant.
Est-ce que vos critères, Marie-Ève, je continue avec vous, sont sévères? Bon, j'imagine on regarde les casiers judiciaires, par exemple.
Oui, effectivement. Bon, c'est sûr, on fait, en fait, c'est comme pour un emploi. Hein? Donc, on doit passer une entrevue, on vérifie des références. Donc, au lieu d'être des références professionnelles, c'est des références sociales. Et on fait une vérification d'antécédents judiciaires également. Et c'est d'être très rigoureux aussi dans apprendre à connaître la personne au niveau de l'entrevue, s'assurer que le ou la grande amie sait dans quoi il met les pieds, connaît la réalité, parce qu'il y a des choses qui sont pas faciles.
On met pas ça rose, là. Ouais.
Non, on met pas ça rose du tout, parce que j'aurais peut-être beaucoup plus de candidatures là, si je dépeignais un paysage tout rose, tout beau. Par contre, j'aurais beaucoup plus d'abandon, beaucoup plus d'échecs en cours de route. Là,
ouais.
Donc, on dit les choses comme elles sont. Et c'est... on a beaucoup quand même là, de gens, les gens qui viennent aux rencontres d'information, tout ça, qui vont poursuivre le processus après ça. Puis là, on sait qu'ils sont quand même bien préparés, malgré qu'il y a des embûches là, quand même après. Là. Oui.
On parle de modèle positif. Jonathan, est-ce que c'est une lourde responsabilité de représenter ça pour un jeune garçon?
Bien, j'aime que vous me posiez la question parce que, du coup, je cogitais pendant que vous discutiez à la question précédente, pourquoi il n'y a pas tant d'hommes qui se proposent ou qui s'engagent? Puis je me disais justement, en lien avec votre dernière question, peut-être qu'ils pensent que la tâche est trop lourde, trop pesante, peut-être que c'est le fait d'incarner un rôle paternel qui fait en sorte qu'ils sont pas prêts justement à faire le pas. Ben oui, il y a une responsabilité. Oui, au départ, la responsabilité, c'est de pas, selon moi, se désengager à la va-vite s'il y a un pépin à un moment donné, puis se carapater. Ceci dit, comme on l'a mentionné, c'est pas le fait de remplacer un parent, je crois, le rôle du grand ami. On arrive là, on s'engage comme ami. Peut-être qu'il y a quelque chose de fraternel qui se crée, peut-être pas, peut-être d'amitié, mais il y a l'équipe des grands amis autour de nous, puis aussi dans le mandat des grands amis que je trouve très pertinent, c'est de faire en sorte que l'enfant soit pas, en fait, on mise vraiment aux grands amis, tu me corrigeras Marie-Ève, mais on mise sur le fait que les enfants soient pas arrachés de leur milieu familial. Le plus possible, essayer de travailler en lien avec le milieu familial jusqu'à ce que peut-être que ce soit vraiment impossible, mais le plus possible, tenter de faire en sorte que l'enfant reste dans ce milieu-là, en lien avec la famille, en lien avec les grands amis et tout l'organisme du docteur Julien. Donc, la responsabilité du grand ami là-dedans, elle vient peut-être exigeante, mais non plus pas si lourde. Il vient là pour changer les idées de la personne, s'amuser avec lui, lui faire voir autre chose, sans remplacer un père ou une mère, sans remplacer toute l'organisation autour. On vient supporter par cette organisation-là des grands amis, petits amis du docteur Julien. Donc, pour les hommes qui pourraient hésiter à faire le saut, peut-être à cause de ça, c'est une hypothèse que je fais, peut-être c'est pas ça, mais j'aurais le goût de leur dire, on est supporté là-dedans. Il suffit juste de s'engager. La responsabilité, c'est de s'engager au moins un an. Puis, j'ai goût de dire, peut-être plus, ça serait encore l'idéal, de plus longtemps. Mais à raison de 2 semaines, comme un ami, comme ça, qu'on voit, puis pour qui on est là. Mais voilà, la responsabilité, c'est d'être un bon ami, quoi.
Oui.
D'être là comme quelqu'un qui a une présence, mais sans remplacer un parent nécessairement, puis sachant qu'on est supporté, du coup, nous aussi, s'il arrive quoi que ce soit, par l'organisation.
Quel mot de la fin intéressant, Jonathan Morier. Merci beaucoup. Marie-Ève Desjardins, www.fondationdrjulien.org pour en savoir davantage. On vous souhaite plein de grands amis pour rendre heureux vos petits amis. Marie-Ève Desjardins, Jonathan Morier, merci beaucoup. Et puis, ben, vous serez là pour diriger les appels. En tout cas, on souhaiterait que le téléphone sonne. Marie-Ève Desjardins, merci.
Certainement, merci.
Au revoir, Jonathan.
Merci beaucoup.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Stéphanie Côté, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes nutritionniste du côté d'Extenso. Et là, pour nous parler souvent d'un plaisir qu'on se permet dans la vie, qui est d'aller manger au restaurant avec les enfants. Parfois, par contre, on a envie de faire rimer ce plaisir-là avec santé et c'est pas toujours évident, surtout si on regarde du côté de l'offre des restaurants familiaux. Disons qu'on est un petit peu limité.
Oui. Absolument, c'est ce qu'on peut dire. Les restaurants familiaux ont ceci de commun qui offrent à peu près tous la même chose sur le menu pour enfants. Vous avez, en tout cas, vous l'avez sûrement déjà vu, hein, ça tourne toujours autour des croquettes, de la pizza, du macaroni au fromage, des spaghettis, des hamburgers. Bref, des valeurs sûres auprès des enfants, des aliments qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Donc, on dirait que les restaurateurs ne se cassent pas tellement la tête.
Et peut-être que l'une des solutions, sans vouloir casser la tête des parents, ce serait de peut-être s'éloigner des restaurants familiaux?
Bien, en fait, il y a moyen de manger, de préciser certains choix ou de faire des meilleurs choix, même dans les restaurants de type familiaux. Okay. Si on se tourne, par exemple, du menu régulier et qu'on pige là-dedans pour nourrir les enfants aussi, bien, il y a moyen d'avoir un peu plus de variété. Puis, ça ne veut pas dire offrir une assiette pour adulte à un enfant, mais ça peut vouloir dire partager une assiette entre soit deux enfants ou même, moi je sais que si je vais manger au restaurant avec mes enfants, parfois les assiettes sont trop grandes pour moi, mais de la partager avec un de mes enfants, tout le monde y trouve son compte, donc ça peut être une solution aussi. Cela dit, je pense qu'on peut peut-être revoir notre notion de restaurant familial aussi parce que je pense qu'il ne faut pas se limiter à ceux qui portent l'étiquette restaurant familial et qui offrent sur le menu des menus pour enfants. Je pense qu'un menu qui est un restaurant qui est vraiment de type familial, c'est un restaurant qui va accueillir les familles, les enfants aussi, avec le sourire et pas nécessairement des restaurants qui offrent absolument un menu pour enfants. Et si vraiment on change notre définition des restaurants familiaux, bien là, on s'ouvre à une grande, grande, grande variété de restaurants.
Oui, et j'imagine qu'il y a différentes astuces également pour améliorer l'offre que l'on retrouve sur les menus pour enfants.
Bien, absolument, si on tient à choisir des aliments qui sont sur les menus pour enfants, il y a souvent des choix que l'on peut faire dans le menu en tant que tel. On peut accompagner, par exemple, soit la viande ou les croquettes ou l'hamburger par un accompagnement de notre choix. Donc, on peut y aller avec des légumes. On peut essayer d'offrir, je sais pas, une salade de fruits pour dessert aux enfants s'ils sont allés vers les frites pour le repas principal. Bref, peut-être essayer d'offrir des choix, tu sais, de dire à l'enfant, mais est-ce que tu veux soit des frites ou un dessert, ou est-ce que tu veux ta boisson gazeuse ou le dessert, tu sais, sans y aller avec la boisson gazeuse, les frites et le dessert, de dire, bien, là-dedans, on va peut-être en laisser tomber un pour choisir quelque chose qui va être un peu plus nutritif, mais sans couper non plus là, les plats spéciaux que les enfants ont quand même du plaisir à manger quand ils vont au restaurant une fois de temps en temps. Quand c'est pas coutume, quand c'est pas trop fréquent, mais il faut quand même pas trop s'en faire.
Stéphanie, de plus en plus, notamment du côté de Montréal, mais de plus en plus en région aussi, il y a des restaurants qui offrent des cuisines de tous les pays. Est-ce que ça peut être une bonne idée d'offrir à nos enfants des saveurs différentes?
Oh, ça oui, c'est vraiment une très belle occasion de faire découvrir des nouveaux aliments aux enfants parce que les restaurants, souvent, c'est une sortie qui est agréable, qui est le fun pour toute la famille. Et quand ce climat-là est positif, quand le climat d'un repas est positif, bien, ça fait en sorte que l'enfant va déjà avoir une opinion favorable de ce qu'il va manger parce que c'est un plaisir, c'est une sortie spéciale, c'est un moment qui est le fun. Et donc, ce que l'enfant va manger, bien, il va en garder un bon souvenir. Donc, si on veut faire découvrir une cuisine du monde à un enfant, bien, je pense que le restaurant, c'est une belle occasion de le faire pour le marquer positivement.
Et c'est une façon, je trouve, tout à fait ludique, peut-être d'éloigner boissons gazeuses et frites qu'on ne retrouve pas dans des restaurants de type indien ou asiatique, sans dire que tous les aliments qu'on retrouve dans ces restaurants-là sont bons. En tout cas, on sauve peut-être quelques problèmes.
Et c'est sûr que, bon, les frites ne sont peut-être pas dans un restaurant indien. Il y a d'autres aliments frits qui s'y retrouvent, par contre. Mais je pense que juste pour l'exploration que ça permet de faire, les découvertes culinaires et de pas rester dans les mets, le fast-food traditionnel, je pense que ça vaut quand même, parfois, les petits compromis nutritionnels qu'on doit faire.
Stéphanie, je lisais sur le blog de Naître et grandir où vous participez également un oui. article qui s'appelait « Les changements pour 2015 dans les mm-hmm. restaurants familiaux » où l'on disait en fait que oui, la pizza, c'est toujours le plat préféré des enfants, mais il y a quand même de belles améliorations à voir venir.
Oui, ben en fait, ce sondage-là qui a été mené auprès d'une association américaine de restaurateurs, les restaurateurs, ce qu'ils voient dans leur boule de cristal pour 2015, c'est vraiment une amélioration des menus pour enfants. Espérons que ça va se concrétiser, mais entre autres, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une conscience qui est prise pour offrir des repas plus sains, des aliments faits de grains entiers, plus de fruits et de légumes comme accompagnement, même des salades, des aliments cuits au four plutôt que frits, des jus purs à 100% plutôt que des boissons gazeuses. Donc, c'est quand même un petit... Ça reste une boisson sucrée, mais mm-hmm. qui est quand même qui constitue une petite amélioration, des mets inspirés de diverses origines culturelles. Bref, oui, on espère, on reste positif et on espère que ça va vraiment se concrétiser.
Et vous sembliez un petit peu étonnée parce que vous vous disiez que ça allait jamais changer.
Ça fait tellement longtemps qu'on voit sur les menus pour enfants les mêmes aliments,
ouais,
les mêmes aliments, que... personnellement, je le prenais un petit peu comme un acquis. Peut-être que j'étais défaitiste ou pessimiste envers ce dossier-là, mais c'est une agréable surprise de voir que des gens prennent conscience et que ça va peut-être changer. Bon, on n'est pas... C'est pas encore concrétisé tout ça. Je vais vraiment y croire quand ça va arriver. Peut-être que mon pessimisme ne me lâche pas si facilement.
On le souhaite et surtout, on n'arrête pas d'aller manger au resto quand même avec les enfants.
Non, il faut les sortir aussi une fois de temps en temps. Ça leur permet tellement de découvrir des nouveaux aliments. C'est une sortie qui est agréable pour toute la famille aussi. Ça remet le repas en famille parfois à l'ordre du jour.
Ouais.
Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut en profiter une fois de temps en temps.
Stéphanie Côté, nutritionniste chez Extenso. On peut également vous lire sur le blog de Naître et grandir. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Pareillement. Merci, Marianne.
Et bon mois de la nutrition qui s'en vient en mars, Stéphanie.
Oui, tout à fait. C'est vrai. On en reparlera.
Oh, certainement. Au revoir.
Merci. Bye-bye.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Marianne Paquette au micro. Ben, j'espère vous avoir mis en appétit, peut-être pour le repas du soir. Si vous nous écoutez à 17h, ben, c'est le repas en rediffusion. Hein. Ce sera pour le repas du soir. On se donne rendez-vous demain. Nous, on sera au poste dès 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.